Bonjour, vous écoutez l'émission de l'Église protestante unie de Dreux-Marsosseux. Il va être question d'actualité, d'un commentaire de la Bible, mais aussi il va y avoir pas mal de bonne musique. Bienvenue aux automobilistes, bienvenue à ceux qui sont chez vous, qui nous écoutent, qui nous rejoignent. Nous écoutons tout de suite Feder, Goodbye.
Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night, intense. Now living my own life, got you out of my path. Been wasting too much time, gonna leave you far behind.
Bonjour, c'était Goodbye de Feder. Dites voir, si vous deviez acheter une voiture dans les prochains jours, oseriez-vous envisager l'acquisition d'une Volkswagen? Nous allons réfléchir à cela 30 secondes sur l'émission de l'Église protestante unie de Dreux-Marsosseux. Le Dieselgate, qui touche la marque allemande, porte effectivement un coup sévère à sa réputation d'excellence. Suite à la découverte de la manière dont la compagnie automobile a inséré quelques lignes de programmation dans le calculateur central du moteur pour falsifier les résultats au moment des tests anti-pollution, plusieurs questions se posent, non ? Qui mettent en avant la question de la confiance et de la fragile confiance. La triche est-elle généralisée ? Concerne-t-elle d'autres aspects des voitures ? Touche-t-elle d'autres marques ? Quelles sont les modalités des tests anti-pollution et pourquoi ces différences entre les tests de pollution au laboratoire et la réalité du terrain? Bien sûr, cela interroge sur les perspectives d'avenir du diesel. C'est l'actualité qui parfois suscite la réflexion. Si l'on pousse un peu, on pourrait même rester perplexe et se demander pourquoi c'est aux États-Unis qu'apparaît ce scandale. Étonnant que les normes anti-pollution soient plus strictes là-bas, au point que Volkswagen se soit senti obligé de tricher pour être dans les normes exigées. Quand on y voit la taille des voitures aux États-Unis et la consommation d'essence faramineuse qui va avec, 4 litres pour le prix d'un, à n'en pas douter, une Golf pollue moins que la majorité des gros 4x4 et autres limousines qui ornent le paysage routier outre-Atlantique. Mais bon, au-delà de toutes ces questions, restons lucides. Les commentateurs ont beau jeu d'imaginer des temps difficiles pour les constructeurs automobiles, le pragmatisme reprendra bien vite le dessus. Par obligation ou par plaisir, ce n'est pas demain la veille que les voitures vont disparaître. Éventuellement, chacun pourra réfléchir à deux fois pour savoir quelle voiture choisir, en quelle marque avoir confiance. Et c'est là que je veux en venir. Je ne suis pas sûr que les voitures du groupe Volkswagen soient moins bonnes que celles d'autres marques. Au contraire, malgré le scandale et les cacheteries mises à jour. Pourtant, à n'en pas douter, les ventes de la marque vont souffrir dans les prochains mois, en tout cas les diesels, et ce, à cause de la confiance trompée. Fragile confiance, qui nécessite un temps fou pour se construire et qui peut en un instant être réduite à néant. Ceci est vrai au niveau industriel, au niveau économique ou boursier, au niveau relationnel aussi, et surtout, bien sûr. La marche du monde, de notre monde personnel, repose sur de nombreux vecteurs de confiance. On s'imagine parfois que l'on peut tricher sans conséquence. Un tout petit peu, ou juste une fois. La discrétion de mise peut en effet sauver les apparences pendant un temps. Mais vaut-il la peine de désirer avoir un petit bonus et risquer de tout perdre parce que la confiance sera brisée? La qualité de la relation avec nos amis, avec nos enfants ou nos parents, avec notre conjoint, avec nos collègues ou nos voisins, repose sur des relations de confiance. Pour les croyants, la foi est de l'ordre de la confiance également. La confiance est quelque chose de précieux, qui n'a pas de prix, et qui pourtant ne peut s'acheter. Un verset de la Bible affirme « C'est dans la confiance que sera votre force ». Ce qui devient aujourd'hui la faiblesse de Volkswagen peut nous interpeller et nous inviter à ne pas négliger le soin que nous apportons à construire et préserver les liens de confiance que nous tissons autour de nous. Que le public des automobilistes et de ceux qui aiment la musique contemporaine me fasse confiance, Thrift Shop de Michael Moore ne va pas nous décevoir.
Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome.
Now, walk into the club like, what up? I got a big pack. I'm just pumped, I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like,
damn, that's a cold ass honky.
Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green, draped in a leopard mink. Girl standing next to me, probably should have washed this. Smells like R. Kelly sheets. Piss. But shit, it was 99 cents. Pocket copping it, washing it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in. Bummy and grungy fucking man. I am stunting and flossing and saving my money. And I'm hella happy that's a bargain, bitch. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa, can I have his hand me down? Velour jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Dig it. They had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket. Then I bought a kneeboard. Hello, hello, my ace man, my mellow. John Wayne ain't got nothing on my fringe game, hell no. I could take some pro wings, make them cool, sell those. The sneakerheads will be like,
ah, he got the Velcro.
I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome.
Ow.
I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome.
What she know about rocking the wolf on your noggin? What she knowin' about wearing a fur fox skin? Whoa. I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Whoa. Thank your granddad for donating that plaid button up shirt. Cause right now I'm up in her stunt. I'm at the Goodwill, you can find me in the tent.
I'm not stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand and rock that motherfucker. The built-in onesie with the socks on that motherfucker. I hit the party and they stop in that motherfucker. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Limited edition, let's do some simple edition. $50 for a t-shirt, that's just some ignorant bitch. I call that getting swindled and pimped. I call that getting tricked by business. That shirt's hella dope. And having the same one as six other people in this club is a hella don't eat gang. Come take a look through my telescope, trying to get girls from a brand and you have.
Vous écoutez Paroles Protestantes, l'émission de l'Église Protestante Unie de Dreux-Marsosseux sur Radio Grand Ciel. C'était Thrift Shop de Michael Moore. Nous poursuivons nos humeurs sur l'information lorsqu'elle suscite la réflexion, comme c'était le cas il y a quelques instants concernant le Dieselgate de Volkswagen. Mais quand l'information suscite la réflexion, nous amène également à une réflexion sur la connaissance du bien et du mal. Distinguer le bien du mal semble souvent aller de soi. En effet, dans bien des situations, nous n'avons pas vraiment de doute sur ce qu'il est positif de dire ou de faire et ce qui ne l'est pas. Dans certains cas, cependant, discerner ce qui est juste est nettement moins évident, et c'est souvent comme cela dans l'actualité. Ces dernières semaines nous ont proposé quelques situations empreintes de cette ambiguïté. Par exemple, peut-être avez-vous prêté attention au verdict dans le procès de Laurence Naïd Kaoudit, la maman de la petite Méline. Cette mère avait volontairement étranglé sa propre fille fortement handicapée et dont toute la vie était restreinte à très peu de choses. Était-ce là un simple meurtre ou un geste d'amour, comme elle l'a défendu devant les jurés ? Si on essaie de se mettre à la place de cette maman avec ce sentiment d'être devant une impasse, on est en droit de s'interroger sur ce qu'il aurait été le mieux de faire. Mais le même dilemme s'est posé pour les jurés, qui l'ont finalement jugé coupable de meurtre, tout en y associant une peine de prison légère et avec sursis. Quel était le mieux à faire ? Condamné, gracié ou l'entre-deux qui a finalement été choisi. À un niveau plus international, les autorités françaises viennent de prendre la décision de bombarder certains sites du pseudo-État islamique Daesh en Syrie. Certes, cela nécessitera encore plusieurs semaines de reconnaissance pour savoir où frapper, mais l'engagement est là. Bonne ou mauvaise décision ? Il y a 2 ans, le président de la République envisageait sérieusement de partir en guerre contre Bachar el-Assad. Il s'était finalement abstenu, faute du soutien des Britanniques et des Américains. Aujourd'hui, changement de cible, comme si l'axe du bien ou du mal avait évolué. Est-il vraiment envisageable de mettre à mal Daesh avec des bombardements ? En même temps, peut-on rester là sans rien faire et laisser prospérer un mouvement qui génère et forme des terroristes en puissance ? On pourrait croire ici à une certaine légitimité de la violence. Pourtant, peut-il venir quelque chose de bon des bombes ? Surtout quand on sait combien dans le passé l'usage de la violence a surtout été une spirale négative, ou alors n'a fait que déplacer les problèmes. Mais peut-être est-ce plutôt une guerre d'opinion, dans le contexte de l'afflux incessant de migrants en Europe venant de ces territoires ? Justement, à propos de l'opinion publique concernant ces demandeurs d'asile. Tout le monde a été marqué cet été par la photo du petit Aylan Kurdi, mort et échoué sur la plage de Bodrum. Comment ne pas être bouleversé par la force de l'image et surtout la réalité du drame familial ? Quelque chose de bien, entre guillemets, est sorti de ce terrible mal, avec le mouvement de solidarité qui s'en est suivi. Pourtant, certains ont été plus mitigés lorsque des survivants de ce bateau qui a coulé ont témoigné et affirmé que le papa de l'enfant était en fait le passeur et que c'est lui qui avait dirigé la manœuvre et récupéré l'argent exorbitant qu'avaient dû payer les passagers. Discerner ce qui est bon n'est pas aussi simple qu'on peut bien souvent le penser. Depuis l'aube de l'humanité, la connaissance du bien et du mal est une quête désirée mais rarement maîtrisée. La Bible raconte comment Salomon, dans son célèbre jugement, a réussi à faire le tri et surtout à faire fi de la double impasse qui se trouvait devant lui en faisant preuve de sagesse et de créativité. Mais même au plus profond de soi, les élans les plus louables flirtent parfois avec des pensées plus obscures. L'actualité des derniers jours peut nous inviter à réfléchir sur nos propres jugements, nos visions, nos choix, nos opinions, afin de ne pas négliger la complexité des situations. La visée d'une vie bonne et juste, avec et pour les autres, c'est ainsi que Paul Ricoeur définit l'éthique. Et cette visée d'une vie bonne et juste avec et pour les autres constitue à n'en pas douter un défi, mais surtout une belle ligne de conduite. Nous écoutons maintenant un deuxième titre de Michael Moore, Downtown.
Moped store, said fuck it. And the salesman's like, what up, what's your budget? And I'm like, honestly, I don't know nothing about mopeds. He said,
I got the one for you, follow me.
Ooh, it's too real, chromed out mirror, I don't need a windshield. Banana seat, a canopy on two wheels, 800 cash, that's a hell of a deal. I'm headed
downtown, cruising through the alley, tiptoeing in the street like ballet. Pulled up, moped to the valet, white walls on the wheels like mayonnaise. Dope, my crew is ill, and all we need is two good wheels. In the bank, and a bad little mama with the ass in my face. I'ma lick that, stick that, break her off, kick that, snuck her in backstage. You don't need a wristband, dope.
Killing the game, about to catch a body. Past the heartbeat, Dookie on the Ducati. Timberland, Khaled, Scott Storch, Birdman. Goddamn, man, everybody got Bugattis. But I'ma keep a hella 1987. Head into the dealership and drop a stack in cup of Kawasaki. I'm stunning on everybody. Hella raw, pesto, wasabi. I'm so low that my scrotum's almost dragging up on the concrete. My seat is leather. I ride a line, it's pleather. But girl, we can still ride together. You don't need an Uber. You don't need a cab. Fuck a bus pass. You got a moped, man. She got 1988 Mariah Carey hair. Very rare. Mom jeans on her derriere. Throwing up the west side as we tear in the air. Stop by Pipe Place, throwing fish to a player.
Downtown, downtown,
downtown.
Sounding like a French pimp bump back in the day. I take her to Ponderay and I watch her skate. I mean water ski, ollie ollie oxen free. I'm perusing down fourth and they watching me. I do a headstand and eagle lands on my seat. Well hello, but baby the kickstand ain't free. Now do you or do you not wanna ride with me? I got one girl, I got two wheels. She a big girl, that ain't a big deal. I like a big girl, I like them sassy. Going down a back street, listening to Black Street. Running around the whole town. Neighbors yelling at me like you need to slow down. Going 38, Dan, chill the fuck out. Mow your damn lawn and sit the hell down. If I only had one helmet, I would give it to you. Give it to you. Cruising down Broadway, girl, what a wonderful view. Wonderful view. There's layers to the shit, player. Tiramisu, tiramisu. Let my coattail drag, but I ain't tearing my suit. Tearing my suit.
C'était Downtown de Michael Moore. Vous écoutez La Voix protestante de Radio Grand Ciel, l'émission de l'Église protestante unie de Dreux-Marsosseux. À Dreux, donc. Et vous pouvez évidemment nous rendre visite chaque dimanche à 10h30, rue Mérigot. Et vous pouvez venir aussi le reste de la semaine découvrir l'espace Gravel. C'est cet immeuble de la rue Mérigot où nous préparons l'ouverture d'un espace de coworking, de coaching de créateurs d'entreprises. vous serez accueilli et accompagné par un spécialiste du coworking et de la création d'entreprises. Je vous propose, avant d'écouter une autre musique contemporaine, d'avoir une petite réflexion sur la notion d'accessibilité. Le texte qui est proposé à la lecture des églises dans les listes de lecture œcuménique catholique et protestante se trouve dans l'Épître aux Hébreux, c'est le chapitre 5. Il y est question du Christ, Jésus-Christ, comme grand prêtre. Et nous lisons « Tout grand prêtre choisi parmi les hommes a pour fonction de servir Dieu en leur faveur. Il offre des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est lui-même exposé à bien des faiblesses. Il peut donc montrer de la compréhension à l'égard des ignorants et de ceux qui commettent des erreurs. Et parce qu'il est faible lui-même, il doit offrir des sacrifices non seulement pour les péchés du peuple, mais aussi pour les siens. Personne ne peut s'attribuer l'honneur d'être grand prêtre, on le devient seulement par appel de Dieu, comme ce fut le cas pour Aaron. Le Christ également ne s'est pas accordé lui-même l'honneur d'être grand prêtre. Il l'a reçu de Dieu qui lui a déclaré « C'est toi qui es mon fils. À partir d'aujourd'hui, je suis ton père. » Et ailleurs, il a dit aussi « Tu es prêtre pour toujours dans la tradition de Melchisédek. » Aussi surprenant que cela puisse paraître, il n'y a donc pas de prêtre et de grand prêtre autre que le Christ dans le christianisme. Mais plus intéressant encore que cette sacralisation unique du Christ comme grand prêtre et donc de cette désacralisation des humains, il y a cette petite mention « Nous n'avons pas un grand prêtre insensible ou inaccessible ». Et je vous propose d'avoir une réflexion sur l'accessibilité, non pas de Dieu, toujours accessible, jamais plus loin qu'une parole, qu'une pensée, mais sur l'accessibilité des églises. J'ai assisté plusieurs fois à des réunions d'églises dans différents lieux et différentes instances où on ressortait à chaque fois soulagé lorsqu'un nouveau délai était envisagé par rapport à la mise en conformité de l'accessibilité des locaux, tant la charge financière semblait lourde à ces églises et ces instances. Mais l'accessibilité n'est pas d'abord une question d'argent. C'est une question de vision et de compréhension de ce que sont la vie communautaire, finalement de ce qu'est Dieu ou de qui est le Christ lui-même, et donc de la mission de l'Église dans la cité. Sommes-nous une Église accessible ? Je voudrais prendre brièvement l'exemple que les protestants connaissent bien, qui est celui des asiles de la force, c'est-à-dire de la fondation John Bost, qui se trouve près de Bergerac, là où on fait du bon vin, et qui a été construite avec son temple au XIXe siècle. John Bost avait évidemment pensé l'accessibilité pour les fauteuils et les lits roulants, puisque cet asile de la force a été prévu pour les personnes handicapées. Il avait même prévu des alcôves au fond du temple, pour que des personnes épileptiques, sujettes à de nombreuses crises, puissent être mises à distance des autres par un rideau que l'on pouvait discrètement tirer, et pour qu'elles soient ensuite prises en charge s'il le fallait. Le mot « accès » a une racine qui signifie « s'approcher d'eux ». Alors, dans le texte de l'Épître aux Hébreux, l'orientation c'est « approchez-vous de Dieu, il n'est pas inaccessible ». Mais dans l'application que j'en fais, de s'approcher de l'Église, d'une Église accessible, qui peut s'approcher ? S'agit-il de s'approcher de l'autel ou de la table de communion ? En un sens, oui, il s'agit de s'approcher des autres, car ce ne sont pas uniquement des lieux qui doivent être rendus accessibles, mais nos cultes protestants, en l'occurrence, notre langage, notre musique et nous-mêmes. Être témoin, c'est être disponible pour accueillir, mais cela ne suffit pas. Il faut aussi se rendre accessible, comme Dieu le fait en nous montrant un visage humain, non pas insensible, mais accessible. Ne dit-on pas d'une personne froide ou hautaine qu'elle est inaccessible ? J'ai entendu une fois une personne qui me disait que c'était aux personnes qui nous rejoignent à l'église ou au temple, à Dreux, 11 rue Mérigot par exemple, de faire l'effort d'apprendre nos psaumes, le déroulement de nos cultes, la culture protestante. Dans le fond, elle disait quelque chose de vrai et nécessaire, même si la démarche de la rencontre est toujours à double sens. Mais elle avait oublié de penser à la rampe d'accès, à l'ascenseur qui allait permettre à la personne de ne pas rester découragée sur le seuil de la porte ou sur le seuil de la liturgie, de l'histoire, de la culture ou de la communauté protestante. Comment faire en sorte que les enfants, les étrangers, les personnes handicapées, les personnes alcooliques ou malades ne deviennent pas accessoires? En plus, si on a le temps, la disponibilité, les sous. Quel geste, quelle parole, quelle pédagogie, quelle organisation et même quel ministère reconnu peuvent-ils être pensés par les conseils des églises locales pour que l'évangile soit accessible à tous? Un dictionnaire indique que le verbe « accéder » signifie dans un registre juridique ancien « se joindre à quelqu'un dans un engagement ». On a bien ici l'idée de rejoindre un autre, mais aussi la notion de contrat, d'engagement. Repousser l'application de la loi, c'est casser l'engagement pris avec de nombreux citoyens qui avaient confiance dans l'État et dans les institutions pour faire appliquer la loi, cette loi d'accessibilité. D'ailleurs, l'État a été condamné en juillet dernier pour ne pas avoir trouvé de place à des enfants autistes dans des structures adaptées. L'accessibilité n'est pas qu'une question de rampe d'accès. Restez-vous accessible à ceux qui vous entourent, à ceux qui vous aiment? Pensez-vous que Dieu vous soit accessible? Maintenir nos églises et leurs témoignages inaccessibles serait casser la promesse que l'Église fait à chacun ou redit à chaque baptisé qu'il aura toujours sa place unique et singulière dans ce lieu. Et c'est aussi renoncer à accueillir celui ou celle qui sur le seuil hésite ou n'arrive pas à entrer. Alors, cette obligation de rendre les églises accessibles aux personnes à mobilité réduite, c'est une belle occasion de repenser à ce Christ grand prêtre accessible, à son appel, et une belle occasion pour repenser en amont ce que nous voulons vivre au sein des locaux de nos églises et au sein de la communauté. Sinon, tous les moyens coûteux en argent et en énergie humaine se réduiront à un zèle ou à une obéissance stérile à la loi, mais qui serait alors loin de la personnalité du Christ, de sa volonté répétée aux disciples, de laisser venir à lui les plus petits, les malades et les plus vulnérables. Dieu reste accessible, restons nous-mêmes accessibles. Nos locaux sont à votre disposition, 11 rue Mérigot, chaque dimanche à 10h30 pour ce qui concerne l'église protestante unie de Dreux-Marsosseux. Venez également découvrir l'espace Gravel rue Mérigot. Et maintenant, pour se quitter, The Avener, To Let Myself Go. Nous vous disons à dans 15 jours.
To let myself go, to let myself go.